13. 15 heures. Aucune nouvelle des hommes partis à la recherche de Luke et Liz dans les bois. Beaucoup de communication, oui, mais aucune nouvelle. Tous les employés de l'Institut avaient été informés de l'évasion. Tout le monde sur le pont. Certains s'étaient joints à la chasse à l'homme, d'autres passaient au peigne fin le village pour essayer de retrouver le garçon, ou du moins des traces de son passage. Aucun véhicule personnel n'avait disparu, et toutes les voiturettes de golf qu'utilisaient parfois les employés étaient à leur place. Les contacts à Denison Riverbend, parmi lesquels deux membres des forces de police plutôt restreintes, avaient été alertés en même temps qu'ils recevaient le signalement d'Ellis. Malgré cela, personne ne l'avait vu. Concernant Halvorson, en revanche, il y avait du nouveau. Ioannidis avait fait preuve d'un esprit d'initiative et d'une débrouillardise dont auraient été incapables Jerry Simons et Andy Fellows, les informaticiens. Grâce à Google Maps et à une application permettant de localiser un téléphone, Zeke avait contacté la plus proche voisine de la défunte, dans la petite ville du Vermont où elle avait conservé un logement. Il s'était fait passer pour un fonctionnaire des impôts, ce que la voisine avait gobé sans poser de questions, et dépourvu de cette froideur qui caractérisait, disait-on, les gens du Nord, elle lui avait expliqué que Mo lui avait demandé de certifier certains documents la dernière fois qu'elle était rentrée à la maison. Une avocate était présente. Les documents étaient adressés à plusieurs sociétés de recouvrement. L'avocate appelait ça des mises en demeure. Ces lettres concernaient toutes les cartes de crédit de son mari, raconta la voisine à Zeke. Mo m'a pas expliqué, mais c'était pas nécessaire. Je suis pas né de la dernière pluie. Elle s'occupait des factures de ce bon à rien. Si le fisc veut l'attaquer en justice, je vous conseille de faire vite, elle avait l'air mourante. Madame Sixby estimait que la voisine du Vermont avait vu juste. La question était de savoir pourquoi Halvorson avait choisi cette solution. C'était une perte de temps. Tous les employés de l'Institut savaient que s'ils avaient des ennuis financiers, dus au jeu généralement, ils pouvaient obtenir des prêts dont les intérêts étaient proches de zéro. Cela faisait partie des nombreux avantages présentés à chaque nouvel arrivant au moment de l'embauche. En vérité, il s'agissait moins d'un avantage que d'une protection. Une personne endettée pouvait être tentée de vendre des secrets. L'explication la plus évidente de ce choix était la fierté, ajoutée peut-être à la honte d'avoir été ainsi abusée par son mari volage. Mais elle ne plaisait pas à Madame Sixby. Cette femme était arrivée à la fin de sa vie et sans doute le savait-elle depuis un certain temps. Elle avait décidé de partir les mains propres et demander de l'argent à l'organisation qui les avait salis n'était pas la meilleure façon de commencer. Cela lui semblait une bonne explication, en adéquation avec la référence à l'enfer. « Cette salope a aidé Ellis à s'échapper, » songea Madame Sixby. « Évidemment. C'était pour elle une manière d'expier. Hélas, je ne peux pas l'interroger. Elle y a veillé. Évidemment, là encore. Elle connaissait nos méthodes. Alors que faire ? Que faire si ce sale gamin, victime de son intelligence, n'était pas revenu avant la tombée de la nuit ? Elle connaissait la réponse, et nul doute que Trevor aussi. » Elle serait obligée de sortir le téléphone zéro du tiroir et d'appuyer sur les trois boutons blancs. L'homme qui zozotait répondrait, quand elle lui annoncerait qu'un pensionnaire s'était échappé pour la première fois dans toute l'histoire de l'Institut, en creusant un passage sous le grillage durant la nuit. Que dirait-il ? Oh, je suis désolé. C'est vraiment dommage. Ne vous en faites pas.
Tu parles. Réfléchis, se dit-elle. Réfléchis.
À qui cette emmerdeuse de femme de ménage a-t-elle pu en parler ? Au demeurant, à qui Ellis a-t-il...
Putain !
C'était là, devant son nez, depuis qu'ils avaient découvert le trou sous le grillage. Elle se redressa dans son fauteuil, les yeux écarquillés, sans penser au téléphone zéro pour la première fois depuis que Stackhouse l'avait appelée pour lui annoncer que la piste du sang avait pris fin après 50 mètres seulement à l'intérieur des bois. Elle alluma son ordinateur et trouva le dossier qu'elle cherchait. Elle cliqua dessus, faisant défiler une vidéo. Halvorson, Ellis et Dixon, rassemblés près des distributeurs. « Ici, on peut parler. Il y a un micro, mais il ne marche plus depuis des années. » C'était surtout Ellis qui parlait. Il se disait inquiet au sujet des jumelles et de Cross. Halvorson le rassurait, Dixon ne disait presque rien, il se grattait les bras et se triturait le nez.
« Nom de Dieu, petit !» avait dit Stackhouse. « Si tu veux décrocher les tableaux, vas-y. »
Mais en regardant ces images avec un œil neuf, Madame Sixby comprenait ce qui s'était passé réellement. Elle ferma son ordinateur et appuya sur le bouton de l'interphone. « Rosalind, je veux voir le jeune Dixon. Dites à Tony et à Winona de me l'amener. Immédiatement. »